verre qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses bons naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile. Trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé. Et la maison s'est arrêtée et le patron nous a salué. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Eh oui, il vient d'arriver à Brest, à pied, à cheval, en voiture, en bateau à voile. Mais faut voir quel bateau à voile. Le record est battu, le tour du monde en 80 jours, c'est de la rigolade, ça se fait en 40, maintenant, largement, et bientôt en 5 secondes. Mais ça n'est pas du tout le thème des petits tas dans le mou d'aujourd'hui, ça n'est pas du tout non plus la raison de cette chanson interprétée par les frères Jacques, cette chanson de Jacques Prévert, pour la 287e édition des petits tas dans le mou. En fait, aujourd'hui, nous voulions simplement amorcer cette émission en hommage au profit. Oui, au profit, car selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Saint-Profit, mais rassurez-vous, il s'agit d'un homme qui existait et qui s'appelait Barthélemy Profit, patron de la méthode active. Barthélemy Profit, quel nom ! Barthélemy Profit est né en Corrèze en 1867 et il avait décidé d'être instituteur et puis très vite il s'est rendu compte que quand même, mais c'est pas possible, ces méthodes d'éducation qu'on applique aux enfants, apprenez du par cœur et tout, il a créé très vite des coopératives scolaires, une mutualité d'élèves, et puis il a été reconnu à cette époque, c'est-à-dire qu'en 1900, ce brave homme, eh bien, il a été muté à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime, et il professait, il a écrit un livre de pédagogie, Le Maître n'est pas un caporal. Les enfants doivent s'organiser en association, essayer de créer une espèce d'autogestion, terme qu'on n'employait pas encore à l'époque. Le maître n'est pas un caporal, et ce qui est très important, c'est de sortir des manuels scolaires et de se créer sa propre envie et d'apprendre selon en fait l'envie de ce qui se dégagera de ces petits groupes d'enfants. Voilà, les classes à l'époque étaient d'ailleurs aussi nombreuses et peuplées que celles d'aujourd'hui. Il en était bien malheureux. Mais il créait des billets comme ça, les enfants se créaient par petits groupes et puis décidaient de ce qu'ils allaient apprendre, non de là. Voilà pourquoi on peut faire le tour de la Terre en sortant de l'école. Donc aujourd'hui, on va vous inciter à vous instruire vous-même, parce que connais-toi toi-même, ça c'est un truc vraiment, il n'y a pas plus dépressif comme consigne, mais instruis-toi toi-même. Même, voilà, qui peut être intéressant. On espère vous y inciter pendant cette heure d'émission consacrée à Monsieur Profit. rubrique Alpha, fantasme et peur chronique, la terreur. Benoît-on, le chaudronnier anarchiste, vient de passer la ruelle où l'on oblique pour rejoindre Angèle. Une ruelle étroite, même pas une ruelle, juste à droite du quai de la Fosse. De toute façon, à gauche, c'est la Loire, où elle change de nom et de rivière, de fleuve, devient estuaire. Grande artiste, pas de doute, l'Angèle. Professionnelle de l'aspiration. Nom de Dieu, comment est-ce possible? Des lèvres faites ainsi pour le gland. Cette terre d'humus riche, riche, sous bois, à l'odeur tiède de feuilles mortes. L'arbrisseau y prend racine et se fortifie et meurt parce qu'il y a trop d'ombre et trop d'autres racines dans ce sous-bois qui ont pompé déjà toute l'eau, l'eau de vie. Cette mort par étouffement qu'on sait bien qu'elle reprendra quand on essaiera de récupérer son souffle encore dans cette pénombre où l'odeur de la terre humide vous saisit jusqu'aux tempes, au point de défaillir, au point de non-retour, au point d'oubli qu'il y a autour de vous tant d'autres plantes à défaillir et à faire semblant d'animer cette forêt. Parce qu'une femme qui vous pompe, on n'aime pas s'imaginer qu'on la violente, alors même qu'on la violente, comme autant de taupes qui s'en prennent aux racines, rescapant les apparences du trop d'acide au fond de la gorge, quel supplice. Benoît-on ne peut pas exercer de censure au creux de son bassin de célibataire. Il ne peut pas interdire à ses propres racines de resserrer leurs radicelles. Il ne peut pas borner son imagination. C'est inhumain. La pipe, c'est un art. L'extérieur se contrôle mieux. Il y a des ficelles, c'est une mécanique, un plaisir très précis, sorti de soi vers ce qui appelle, vers ce lointain si proche, la bouche d'Angèle, sa langue sinueuse qui flatte les brèches de l'organe. Ce qui rassure Benoît-on au milieu de sa nostalgie de Brabance, l'autre prostituée qui a sa préférence, qu'il aurait bien aimé se faire ce soir, c'est que Brabance respire fort. C'est son seul défaut, non. Ce n'est pas un défaut. Benoît-on aime que la femme s'essouffle quand il lui pose son vie. Cependant, Angèle a un point de beauté à la commissure des lèvres. Quand il va et vient, trempé de sa salive, il écarquille tout grand les yeux. Ses yeux se désorbitent sur ce point extrêmement précis et il a l'impression d'être emporté dans ce point qui se gonfle à chacune de ses entrées et s'éloigne à chacune de ses sorties. Il n'a jamais été question pour Benoît-on de continuer son chemin, de longer indéfiniment le quai comme ça jusqu'à Roche-Maurice, et puis encore, pourquoi pas, jusqu'à la mer. Ça va. Il n'a jamais été question de suivre la Loire dans sa précipitation vers le repos océanique, ni même de sauter directement du quai. À d'autres. À son frère, Maurice. Jeté du pont maudit. Ce pont-là, il faut dire, il est pour les jours sombres et les nuits claires. Quand la contradiction du ciel et des heures ouvre au désespéré la solution, comme un déchirement de la peau aspire le microbe dans cette voie de multiplication inespérée. Le mouvement du fleuve unilatéral, celui de l'éternel retour. Dans ces moments de perdition cosmique, ça se ressemble fatalement. Le mouvement du fleuve et l'éternel retour. Benoîton ne pleure pas. Pour qui n'a pas vocation à se voiler la face, le sort de celui qu'on aime fulgure. C'est pas le destin. Le destin, ça le fait rigoler, Benoîton. C'est la force vitale qui baisse ou pas le pavillon, qui fouille autour ou pas, qui fouille plus loin une raison d'imaginer qu'un jour, ça peut changer. Et lui alors, comment pourrait-il se jeter dans cette eau sale charriant les chiasses de l'industrie ? Cracher, oui, cracher dedans. À chaque fois qu'il y crache, une pensée pour le frangin. Hé, Glavio ! Ce Glavio vient du fond du cœur, frère. C'est comme ça qu'il arrose sa fleur à lui, dans l'immense lit de mort qui défile, son sanctuaire familial à lui, qui n'arrête pas de défiler avec ses régiments de morts et de glaviots fertiles. Il inscrit d'un jaune visqueux à la surface du fleuve qui se délite au niveau des piles des ponts, Benoîton. Et il ajoute, en se raclant un peu la gorge, « Il a payé sa contribution, Camaro !» Le Glavio va son chemin jusqu'à la mer et il regarde cet œil, les tourbillons autour de lui et les poussières qui remontent de la Loire vers les nuages qui s'amoncellent et asphyxient le soleil arrogant. C'est le clin d'œil du Glavio qui s'en va. Ce nuage qui passe un instant et pose son crêpe sur la face cachée de tout ce qu'il luit. Et à Lyon. À Lyon, pendant ce temps, vers 4 heures du matin, 3000 têtes environ exhalent dans l'obscurité de longues bouffées blanches. On la tient à distance, cette foule, à très grande distance du lieu où s'effectuera la séparation du corps et de la tête. Il y a sur l'estrade le grand alchimiste national, Debler, de père en fils, expert de père en fils dans ce genre de choses. On l'appelle le bourreau et chez le boulanger, son pain est à l'envers pour que les clients ne s'y trompent pas et ne deviennent pas bourreaux à leur tour. Cette foule au demeurant ne verra rien. Elle n'entendra que le bruit cristallin d'une lame méticuleuse qui s'abat, suivie de deux chutes étouffées, une petite, puis une pesante. Soupir d'une botte de paille qu'on libère soudain de son filin, un homme de paille qui s'abat la nuit dans un coin sombre sous le tranchant d'un ciel d'acier. Le mystère des aveugles s'est révélé à cette foule l'espace d'une tranchée humide et tiède. Des ondées de la soirée, de l'orage juste passé, il reste des éclairs blancs sur le lieu consacré en plein milieu du carrefour de la peur. La victime, entre ses bourreaux, avait déjà les traits d'un spectre qui s'allonge démesurément sous la lune. Tout ça se passait ailleurs, dans le cercle très large des vieux rêves d'enfants partant de temps. que bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à Galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel encore voilé, voilé et froid de Lyon. Mais il y a quand même quelques chances de voir apparaître la navette spéciale de Mister Milouz et de Miss Cosmos, sait-on jamais. Chers auditrices et chers auditeurs de Radio Canette, de la connexion illimitée. Il faut dire que, à propos de méthode active, pareil, c'est ça que vous fêtez aujourd'hui, alors moi, je m'excuse, chers auditrices et chers auditeurs de Radio Canette, mais je n'avais pas tout compris que c'était que méthode active. Je croyais qu'il était question de faire travailler chez eux le soir, les habitants du météorite. Bah, c'est une méthode active, quoi. Bon, ça m'étonnait aussi, mais enfin, avec les chiffres du chômage que vous annoncez. Mais est-ce satisfaisant de travailler chez soi, de retour du bureau, Mister Milouz? Pas de hobby, ni rien pour vous occuper. À moins que vous soyez en contrat précaire et que demain, le bureau, ben, c'est fini. Enfin... vous en passez du temps dans vos écrans. À ce qu'on a constaté depuis la dernière semaine hebdomadaire de notre constellation des Pénates au moyen de notre télescope. Qu'est-ce qu'un travail par chez vous? Gagne-pain. Non, pas un grille-pain, un gagne-pain. Oh, mais le gagne-pain, les petits, il exige de la productivité, comme vous dites. Il faut vous le créer, comme des grands. Le salaire, il ne tombe pas du ciel. Vous vous devez d'être utile, n'est-ce pas, Mister Milouz? C'est la base de la vie sociale du météorite. Vie sociale qui s'appelle libéralisme. À ce que j'ai appris en vous observant dans le télescope. C'est charmant d'ailleurs, cet échange de bons procédés. Donnant. Ça doit être agréable de vivre parmi vous. Donc, vous nourrissez des rêves ambitieux qui sont dans leur nature bénéfiques à votre société. Et maintenant, vous disposez de technologies de pointe, comme vous dites. En somme, tout le monde est content. Mais cela se paye par la force et le temps de travail. N'est-ce pas, Mister Milouz? Pourquoi?
Ou à le nier, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Ne faites pas la tête. Personne ne vous demande de vous déconnecter. Surtout pas le consommateur de base qui s'en fout de vos conditions temporelles de travail. Il sait que vous visez l'international, que la règle principale est le libre-échange, comme vous appelez ça. Donc, il faut se débrouiller avec la concurrence et le travail permanent. Ben, c'est ça ou la faillite, hein? Les flux. Il faut gérer les flux. Du bureau ou de chez vous, ça revient au même. Donc, votre avenir est la connexion 24-24. La connexion 24-24, chers auditrices et chers auditeurs de Radio Canette.
De quoi?
Vous ne répondez pas après 18h? Vous délaissez vos messages une fois rentrés à la maison? Bande de tir au flanc! Mais vous encouragez la sous-traitance, le travail dissimulé, parce qu'à la dernière minute, vous raccrochez. Vous avez décroché. Le chiffre d'affaires ne connaît pas le sommeil. Votre paresse aggrave le coût du travail, hein. Je résume, les besoins sont constants. Si vous n'y répondez pas, le client, comme vous l'appelez, ira voir ailleurs, sans doute sur un autre fragment. Vous nuisez aux forces productives de votre pays en vous déconnectant. C'est l'effet domino. Et c'est encore vous qui paierez les pots cassés. Et c'est encore vous qui paierez les pots cassés. Les pots cassés. Les points cassés, non. Les pots cassés. Renaud. Ce qu'on en dit. Tout est partagé dans notre constellation des pénates. Et ce qui compte pour nous, c'est de se sentir bien sans accabler les autres. Oui. Bah, c'est simplifié pour vous. On le sait avec Mr. Milos. Mais à chaque fois qu'on vient, on a direct la nostalgie de notre constellation d'épinards. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye à chaque fois de faire redémarrer notre navette spéciale pour retourner par là-bas. Mais revenir chaque semaine hebdomadaire, vous donner des nouvelles d'ici-bas, vues de là-haut. On va essayer de faire démarrer. Parce que même la navette spéciale, ben, n'a pas une connexion illimitée. Ben, oui, bon, enfin, elle a ses caprices. N'est-ce pas, Mr. Milos? On essaye de faire démarrer cette affaire. Et si tout se passe bien, à la prochaine semaine hebdomadaire.
reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me.
Will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo!
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 Galileo Figaro! Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Just
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus belle radio, 102.2 MHz en FM et en stéréo, s'il vous plaît, excusez du peu. Et nous vous rappelons que vous êtes sur l'émission Les Petits Tas dans le Mou et que nous fêtons Barthélémy Profi, patron de la méthode active. Et donc, pour encore une vingtaine de minutes, nous allons vous engager à vous instruire vous-même plutôt que vous connaître vous-même. Donc, instruis-toi toi-même, c'est difficile à dire, mais c'est quand même, a priori, plus positif que de connais-toi toi-même. Parce que connais-toi toi-même, bah avec ça, on tourne vite en rond. Hein. Bon, et ben on continue. Rubrique Gamma, guerre et conquête, deux archétypes. Ah, évidemment, comme on est dialectique dans cette émission, ça n'est pas du tout une musique d'Ukraine que vous entendez. Hein. Il ne faut pas tout confondre. Et on a remarqué quand même que de ces temps-ci, vous parlez de moins en moins de l'Ukraine entre vous. Mais savez-vous ce qui s'y passait à l'été 1941 en Ukraine? Toutes les routes étaient empoussiérées. Les voies de passage faisaient disparaître les villages. Et dans ce qui restait des villages, on cueillait des tapis de peau humaine. Les chenilles des chars ne font pas dans la dentelle. Vous voyez un tapis humain, comme ces faux tigres en descente de lit, avec la tête carrée, la poitrine et le ventre dans leur grande largeur, mais disposés en losange. Les jambes du vivant de ces gens n'avait jamais réussi le grand écart, mais là, oui. Et les bras étaient parvenus à se détacher du tronc. Les bras évoquaient des pantalons. Quant au costume, on peut dire qu'il était fraîchement repassé. Je vous décris un homme mort, tel qu'on n'en trouve jamais dans les manuels d'histoire. Un homme mort de cette façon ressemble ni plus ni moins à un chat ou un chien mort, écrasé sur l'autoroute. Ce n'est pas triste, c'est un constat de décès. Donc, des hommes, des femmes, des enfants étaient imprimés sur la chaussée, ou plutôt en filigrane dans la poussière de la route. La route, elle passait au cœur des villages, mais les villages ne ressemblaient plus à des villages, et ceux qui étaient rescapés se demandaient ce qu'il y avait de plus ou de moins dans une humaine créature écrasée que dans un chien ou un chat mort, écrasé à l'identique sur une voie de passage. En ce temps-là, il y avait des Juifs en Ukraine. Ils parlaient entre eux d'une voix douce et éteinte. Ils détachaient avec tendresse le tapis humain et lui ôtaient la poussière de la route en le battant avec délicatesse. Il fallait y aller à la bêche, du côté pointu de la bêche. On commençait par la partie qui ressemblait encore à une tête plate, et puis le reste se décollait, suivait la tête par le chiffon du cou, le tapis se transformant en drapeau. Le Juif, maniant la bêche, devenait un porte-drapeau. Souvent, ses cheveux longs retombaient sur ses épaules. Il avait le visage pâle et maigre. Ses yeux brillaient dans une fixité à faire peur. Et il allait, tête haute et tridimensionnée, exhibant derrière lui son drapeau à la pointe de sa bêche. Peau. Drapeau. Une peau humaine qui pendait et se balançait dans le vent comme un véritable étendard. C'était un étendard. Quel étendard ? Celui de l'Europe, en pleine construction. Ce drapeau, c'est le mien. Et on nous parle de redressement productif. Nous avons besoin de produire de la marchandise pour aller fouiller chez les peuples, pour construire notre peuple. Si je vous dis marchandise, vous vous représentez quelque chose, chères auditrices, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous vous représentez ? Eh bien, la marchandise, ce n'est pas cela. Il y a de la métaphysique dans la marchandise, et c'est pour ça qu'elle crée des morts et des drapeaux. Depuis que Dieu a été inventé, la marchandise a pris de la valeur. Qu'est-ce qu'un homme quand il n'est pas aplati sous les chenilles des chars ou atomisé par un drone humaniste ? Quelqu'un qui transforme les éléments fournis par la nature de façon à les rendre utiles. Prenez les arbres, le bois. On en change la forme et la destination, par exemple, parce qu'on souhaite pouvoir s'attabler en communauté sans nécessairement épiloguer sur le destin des arbres. Cette table sur laquelle vous êtes accoudé, elle reste du bois, que vous considérez comme une chose ordinaire, dont vous faites un usage quotidien. Je saisis soudain le rebord de votre table et je m'écrie « Ceci, c'est une marchandise !» Vous prenez peur. Vous songez à me faire interner. Cette table pour vous est une chose très simple que vous avez acquise par des moyens honnêtes ou par héritage. Du moment que ses quatre pieds reposent sur le sol, c'est tout ce que vous lui demandez à la table. Vous êtes très bien ainsi, avachi si cela vous chante sur son tablier. Et c'est moi que vous traitez de tête de bois. Si on se mettait à m'écouter, tout porterait le même nom. Marchandise, marchandise, marchandise. La belle affaire. Mais moi, je sais que la table est capricieuse et qu'elle pourrait se trouver bien loin de votre salle à manger, si vous en avez une. La table danse depuis sa création. Et vous croyez vous y tenir stable ? Même avec un petit coup dans le nez, quand elle n'attend qu'une meilleure offre pour dégager de chez vous. La table est un archétype, et la peau humaine devenue drapeau aussi. La vie de chacun d'entre nous se construit à partir de situations typiques. C'est leur répétition qui forme notre constitution psychique. À la fin, nous n'avons plus besoin d'images, de représentations. Du moins, les images se font moins riches. Nous vivons avec des formes sans contenu. Nous oublions que nous sommes dans un monde de possibilités parce que nous nous accrochons inconsciemment à des types de perceptions rassurantes qui induisent des actions où nous nous sentons à l'aise. Finalement, nous multiplions les archétypes, mot détesté par la majorité parce qu'elle ne le comprend pas et ne veut pas le comprendre, pour nous sentir dans le cocon où nous pensons avoir une quelconque utilité. Nous sommes dans la compulsion. Nous prétendons suivre nos instincts pour que la raison n'entrave pas la force de la répétition. Que nous soyons en guerre ou en paix, en guerre aussi, en guerre surtout, nous répétons des gestes qu'il importe de ne pas analyser. Je remonte plus loin que la dernière guerre. Hannibal. Hannibal, vous vous souvenez ? Venu de Carthage à toute berzingue, il a franchi les Alpes au IIIe siècle avant le Christ et son arrivée a semé les pétoches à travers toute l'Italie. Il n'avait qu'une quarantaine d'éléphants et 100 000 soldats. Des noirs. Vous entendez ? Des noirs. Ce n'est pas spécifié dans les manuels d'histoire. De grosses bites noires sur notre continent. Ils ont d'abord essuyé de sales défaites, se retrouvant bientôt à 30 000. Mais ils avaient pénétré dans les cités. Ils s'approchèrent de nos femmes blanches, qui, comme chacun sait, sont sensibles à l'ébène. Et les troupes d'Hannibal, malgré les revers, étaient munies de membres solides. Les Italiens en sont restés bronzés. Vous le constatez chaque été. après cet épisode, les Italiens ont cherché à prouver qu'ils descendaient tous de lignées d'aristocrates. Les Italiens blonds en particulier, avec des yeux bleus qui vous font tomber à la renverse. Je ne citerai pas de nom. Mais si vous avez l'occasion d'observer les aisselles et l'entrecuisse, vous nuancerez leurs propos. Les troupes d'Hannibal sont bien passées par là et on n'est pas prêt de les oublier. Certains empires ont pris exemple, faisant de l'invasion et de la conquête des marchés leur règle d'or, quitte à transformer les corps humains en drapeaux au bout d'une bêche ou d'un transpalette téléguidé. Et voici venir notre ultime rubrique, la rubrique Baba Yaga, celle que les Asiatiques appellent
le leurre et l'argent du leurre.
Ouais, la bouffe. La bouffe aussi, on peut la manipuler. Jouer avec l'appétit des gens qui se mettent à saliver pour un rien. J'ai entendu nombre d'Européens se moquer des simulacres qui s'exposent dans les vitrines des restaurants japonais. Ils sont si ressemblants. On ignore le plus souvent que la base de ces leurres est réelle. Dans leur fondement, ce ne sont pas des leurres. Il ne s'agit pas de maquettes en plastique ou en caoutchouc. Le petit sushi de thon qui vous fait sourire et saliver est un sushi de thon. On l'a simplement enduit de gélatine liquide à haute température. Le leurre, qui n'est pas un leurre. Une fois refroidi, on a rempli de cire colorée le moule ainsi obtenu. C'est une industrie prospère au Japon. Et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui à cette antenne, moi, Per Nicolo Sporgersi. J'ai même entendu dire que l'ouvrier spécialiste en leurre, qui n'en sont pas, pourrait confondre le plat qu'il a amené pour déjeuner avec le produit qu'il a réalisé. C'est, comme on dit, un risque collatéral. Venons-en à la France, où l'expression « appâter le chaland » est tombée en désuétude. Je soumets une chose à votre entendement. La carte et le menu, simplement placardés à l'entrée de nos établissements, remplissent-ils leur fonction ? En plus, il y a les prix indiqués en face de chaque plat. Vous savez tous que le regard coulisse bien vite vers cette colonne des prix et ne tarde pas à s'exorbiter, bien que le badaud fasse semblant d'y être totalement indifférent. Donc, voici ma proposition. Il est nécessaire d'apporter un plus à ce type d'exhibition, un aimant fortement attractif. L'hameçon tout nu indiffère la truite. sur l'affiche et la bande-annonce d'un film. Il n'est pas indiqué les détails du scénario ni les tarifs pratiqués par la salle. Hein ? À tous les coups, la clientèle s'éclaircirait. Mais les plats factices, alignés en rang d'oignons, ou bien artistement disposés en vitrine, constitueraient un argument de vente autrement efficace. Relativement à ce modeste investissement, nos restaurateurs, et je leur fais un appel du pied à cette antenne, n'auront pas assez de mots pour louer nos leurres inusables et insensibles aux rayons du soleil. Je gage qu'il n'est pas loin le temps où on en trouvera chez les particuliers. Et je leur fais aussi un appel du pied à cette antenne. Ce seront comme des pièces de dinette activant les appétits des anorexiques les plus accros. Vous voyez les enfants, les stratégies militaires ont du bon. Depuis que j'ai lu Machiavel, mes lumières se sont éclairées et je vous livre là une petite confidence. Seulement, la nourriture constitue un domaine où les profits sont considérables et les pertes humaines minimes. La nourriture est le nerf de la guerre, car qui pourrait s'en passer, même au front ? Au sortir de l'école, comme au sortir de cette émission, il est temps d'offrir un réconfort à nos chères têtes blondes, puisqu'on parle de méthode active. Un produit gluant, oui, les produits gluants. Active dans une zone inaccessible, une pulsion qu'aucun spécialiste n'a réussi à circonscrire. Il suffit d'y adjoindre des arômes superfétatoires pour que l'opération soit couronnée de succès. Moi, Per Nicolas Porgersi, j'ai procédé ainsi. Sirop de maïs du Zimbabwe. Sucre du Zimbabwe. Blanc d'œuf d'une ferme des monts du Lyonnais rendu poudreux par nos techniques de dissection. Et colorant rose, dont la source restera secrète pour cause de chasse brevetée. Notre guimauve est garantie sans gluten. Cette friandise a immédiatement fait des ravages, dépassant la cible enfantine initialement visée. Dans ce monde saturé de frustration, le marché de la régression est en plein essor. La guimauve signifie énormément, toutes générations confondues. Je me suis penché sur le marché du petit ours chocolaté. Eh bien, rien ne pourra le détrôner. Mais mon pari à moi était de ne pas attribuer de forme fixe à la guimauve de mon invention. Le gourmand est libre de le modeler à sa façon, selon sa fantaisie. Des modèles sont suggérés sur un manuel joint à la boîte. Nous recevons et collectons en retour ces contributions qui toutes me fascinent et m'encouragent à me débarrasser des moules, à stimuler l'imaginaire du client sans l'encombrer des figures traditionnelles qui nécessairement dégénèrent en stéréotypes, en archétypes, comme disait mon prédécesseur à cette antenne. Une guimauve. Une guimauve, donc. À la disposition de l'excentricité du consommateur, sans anticiper sur elle, ni la contraindre. Une guimauve. Hé, auditeur, auditrice, commandez dès à présent nos guimauves libertaires sur le seul lieu de stockage pour la ville de Lyon, dans les studios de Radio Canu. 04 78 39 18 15 Une guimauve.
quelques bénis. Ah, honey, assez sur cette lani. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie. Donne, donne à ses baisers un goût anisé. Quand elle n'a sur sa langue que le petit bâton, elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pénis. Annie, assez sur ce teint. L'Annie, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux.
Sucette de Gainsbourg, avant de retrouver incessamment sous peu une émission spéciale de 4 heures. C'est pas les musicalités qui partent sur tête, mais c'est Georges Brassens qui part sur tête, ce qu'il aimait particulièrement comme position. Donc ça va bien lui convenir. Et cela nous mènera donc jusqu'aux paysans dans la lutte des classes. Hein, à 18h. Nous, on se retrouve, si tout se passe bien, la prochaine semaine hebdomadaire. Nous serons non pas la Chandeleur, mais la Saint-Schisme, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry. Et donc, nous vous démontrerons la non-divinité des idoles. Voilà, tout un programme. Et bien voilà, on va laisser... On va passer la main, comme on dit. On va passer la main. Mais n'oubliez pas, jusqu'à ce soir, instruisez-vous vous-même. Et laissez tomber, connais-toi toi-même. C'est ça, c'est trop compliqué.